C'est la première fois qu'on se revoit depuis le début de l'année, donc je peux vous dire en direct mes meilleurs vœux pour une année que je vous souhaite riche analytiquement. Il y a énormément d'actualités en ce début d'année et j'aurais voulu vous en donner un petit retour. Donc je pense que je vais commencer par ce qui est sur le tableau du bas pour terminer et enchaîner sur la conférence d'aujourd'hui. Alors, peut-être la toute première chose, vous parlez de quelques événements. Donc vous savez que l'ensemble des conférenciers ici sont membres de l'ACF, l'Association de la cause freudienne, qui elle-même participe à l'ECF, l'école de la cause freudienne, et dont le siège principal est à Paris. Et on a eu hier une grande réunion, un forum, le forum des psys, qui prenait comme thème « l'évaluation tue ». C'est un titre fort, un titre coup de poing, qui a, dans le contexte français actuel, en tout cas, toute sa raison d'être, mais finalement, ça ne se limite pas qu'à la France. Et j'avais envie de vous en dire quelques mots, parce qu'il me semble que, comme on s'inscrit dans un champ, c'est pas plus mal, finalement, que les informations circulent. Alors, cette journée était sous la présidence de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, qui, dans un premier article, avait fait écho à la vague de suicides qu'il y avait chez France Télécom, si je me souviens bien. Vague de suicides dont il pointait directement son caractère très particulier, parce que si les statisticiens s'efforçaient de montrer que ce n'était qu'un petit pourcentage de la population de l'entreprise et même un pourcentage inférieur au taux de suicide en France, par exemple, c'était quand même des suicides qui avaient la particularité de se passer systématiquement sur le lieu de travail. Et donc c'est quand même ça un phénomène très particulier qui fait qu'on ne peut pas l'assimiler à une simple moyenne statistique d'un pays et encore moins d'une entreprise, évidemment. Alors, de ça est venue au fond une réflexion sur la situation de la souffrance au travail dans les entreprises et finalement de savoir en quoi cette souffrance pourrait être liée à l'évaluation, puisqu'au fond c'est ce que postule le champ freudien actuellement. Alors cette souffrance est liée à l'évaluation qu'on retrouve à travers toutes les pratiques de management dans les entreprises actuellement. Et évidemment, on peut penser à quelques grandes entreprises très connues en France ou d'ailleurs à l'étranger. Mais finalement, ces pratiques de management, on se rend compte qu'elles envahissent de plus en plus l'ensemble de la société, que ce soit au niveau des enseignements, au niveau politique également. On peut dire que d'une certaine façon, le politique s'est mis en situation de s'y soumettre. Et donc, l'hypothèse est que ce management, actuellement, atteint des pratiques qui mettent vraiment l'individu en difficulté et qui peuvent le pousser petit à petit, par un travail très précis et très contrôlé, à tomber en dépression au mieux, j'ai envie de dire, et à se suicider au pire. Alors, au fond, on a eu différents intervenants dans la journée. Et ce qui était, j'ai retenu quelques mots-clés, au fond, ce qui était percutant, c'est d'envisager, au fond, le travailleur comme ce que Lacan a appelé dans télévision le retour du travailleur idéal. Alors, qu'est-ce que c'est que cette notion de travailleur idéal? C'est, au fond, l'être humain qui est considéré comme un moyen de mettre en adéquation le travail qui lui est demandé et les objectifs de productivité de la société dans laquelle il travaille. Alors, quand on place l'être humain dans cette situation, finalement, on le robotise, on le mécanise, on commence à compter le temps pour tel et tel geste, et finalement, tout ce qui n'entre pas dans ce cadre standardisé, c'est l'être humain qui, entre guillemets, l'encaisse, puisque lui, il doit se tenir aux standards de production. Et vous comprenez déjà dans quelle spirale il peut être entraîné. Une deuxième chose qui était aussi intéressante, c'était au fond de dire mais l'évaluation finalement elle existe depuis longtemps et pourquoi commencerait-elle à poser problème aujourd'hui plus qu'auparavant. Et là, Roland Gori, qui participait aux journées, a amené un concept de la néo-évaluation, c'est en tout cas comme ça qu'il l'appelle, et nous a expliqué que la grande différence de ce type d'évaluation qui était vraiment mise en place par le management, c'est-à-dire que les grilles d'évaluation sont conçues de telle façon à ce qu'on n'y réponde pas n'importe comment non plus, donc il y a tout un travail derrière ça, a pour but au fond de faire ce qui n'existait pas auparavant, c'est que, pour le dire à ma façon, l'individu intègre cette évaluation comme un surmoi, comme une auto-évaluation qu'il s'applique constamment. Et donc, au fond, il devient son propre bourreau dans un système qui le met dans cette position-là. Et ça, ce serait apparemment un phénomène qui différencie fort les pratiques actuelles de management de ce qui se faisait auparavant. Résultat, sonnette d'alarme tirée, en tout cas hier, par le champ freudien à travers ce forum, qui a duré toute une journée, où on a pu entendre de nombreux commentaires vraiment très intéressants. Alors, pour ceux que ça intéresserait, je vais juste donner quelques références. Il y avait Alicia Fleuris qui a, sous un titre un peu compliqué, sort un livre, mais qui est extraordinaire, enfin qui a été extraordinaire dans sa présentation. Elle m'a particulièrement touchée parce qu'elle a, au fond, fait l'analyse de ce même genre de management au sein des enseignements et des universités et comment ça touche la production de la connaissance, à savoir, vous connaissez ce fameux indice factor, plus vous êtes cité et plus vous produisez, plus vous êtes reconnu. Au fond, c'est un indice de popularité. Et comme vous devez passer votre temps à citer tout le monde, eh bien, vous ne faites plus que ça et vous n'élaborez plus de connaissances. Et donc, c'est une grosse difficulté des chercheurs en université. On leur demande de fonctionner de la sorte et on ne leur permet plus de prendre le temps d'élaborer. Et lorsqu'ils élaborent du nouveau, on n'a évidemment pas encore de grille d'évaluation pour ce qu'ils élaborent, ce qui pose problème au système d'évaluation. Donc, Alicia Fleury a parlé sous le titre les pathologies de la démocratie. Donc ça, c'était un titre tout à fait correct. Roland Gori a parlé de l'ordre économique. Éric Laurent a publié Lost in Cognition, c'est en français mais le titre est en anglais, et Agnès Aflalo a publié L'assassinat manqué de la psychanalyse. Alors voilà, j'en resterai là pour ce forum, mais j'avais envie de vous en donner un petit retour. Alors, dans les actualités, il va y avoir un congrès mondial de la psychanalyse. Oui. Oui, et un film. Tout à fait. Donc, tout à fait. Et ça, c'est effectivement, c'est on a eu la chance d'avoir un réalisateur qui est venu nous parler de son film, donc quelqu'un qui n'est absolument pas analyste, mais qui a travaillé sur la problématique de la souffrance au travail et qui nous a expliqué comment il en est venu à travailler sur cette thématique-là. Le film s'appelle « Rien de personnel ». Et le nom du réalisateur est Mathias Gokalp. Ça s'écrit G-O-K-A-L-P. Et le film est en vente en DVD depuis peu, donc si vous souhaitez... Et il passe au Plaza actuellement ? Voilà, donc vous savez qu'il passe en plus au Plaza. Merci Philippe. D'autres actualités, au mois d'avril, du 26 au 29 avril, aura lieu le congrès mondial de l'Association mondiale de psychanalyse, et ça se passe à Paris. Alors, j'ai envie de dire, malheureusement, si j'ai bien compris, les inscriptions sont clôturées parce qu'il n'y a plus de possibilité d'y aller. Mais ce qui est quand même intéressant et qui s'inscrit dans le film des journées qu'il y a eu en novembre, c'est qu'il y a un mouvement d'ouverture actuellement dans l'école de la cause freudienne et que ces journées de l'AMP, ce congrès, a été ouvert à ce qu'ils appellent les nouveaux venus. Donc c'est quand même quelque chose sur lequel j'attire votre attention, que cette école est en train... Mais En tout cas, oui, ma voisine me dit qu'elle a toujours été ouverte, c'est tout à fait vrai, mais il y a quand même un appel aux nouveaux venus qui semble en tout cas plus présent, une dynamique qui est en train de se mettre en place depuis les journées, ça je pense que c'est quand même, ça me semble indéniable en tout cas, depuis les journées et actuellement. Alors dans cette dynamique, oui, je vais vous donner encore un autre événement, il y aura... le réseau Sereda, c'est l'inconscient vient de la bouche des enfants, une journée colloque sur laquelle malheureusement c'est en mai, mais je n'ai pas les informations de mémoire, mais si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous renvoie l'information précise. Et il y aura début juillet à Rennes le prolongement des journées qui ont eu lieu à Paris début novembre, où les personnes qui n'ont pas eu la possibilité, au fond, de présenter leur travail, tellement il y avait de candidats, poursuivront la réflexion sur se devenir analyste, finalement. Et si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, c'est à ne pas manquer, parce que les journées de novembre étaient extraordinaires au niveau, au fond, des témoignages de personnes qui sont en cheminement dans se devenir analyste, ou qui peuvent dire, qui peuvent témoigner qu'ils le sont. Voilà, enfin, ça, c'est toute une question, évidemment. Alors, dernière chose, dans ce mouvement, j'avais envie de vous parler de ce qui se passe actuellement sur Twitter et que Jacques-Alain Miller a initié à ces fameuses journées de novembre. Une communauté d'analystes et d'analysants s'est mise au travail sur Twitter et a essayé de voir, au fond, en quoi cet outil nouveau de communication pouvait servir ou non une communauté telle celle des analystes et analysants de notre champ. Alors, c'est vraiment une expérience parce que c'est un outil qu'on connaît peu. C'est un outil qui, au départ, paraît très, très chronophage parce qu'on peut passer toute la journée, si on veut, devant Twitter. Mais c'est aussi un outil qui a les avantages de véhiculer énormément d'informations. Et donc, si on souhaite aller à la pêche aux informations de ce qui se passe dans notre champ, c'est notamment un des moyens. C'est aussi un outil qui permet, j'ai mis ça en clin d'œil en mettant la petite affiche ici, de se retrouver lors d'une journée alors qu'on ne se connaît pas concrètement puisqu'on se connaît à travers finalement cet outil. Eh bien, on rencontre des collègues et on peut passer un temps de midi et commencer concrètement à se connaître. Alors, je vous dis deux mots sur le fonctionnement. Twitter, c'est un peu comme Facebook, mais c'est le même genre, c'est un site, au fond, qu'on trouve sur Internet, mais il a quand même la particularité que vous communiquez en 140 signes. 140 signes, c'est moins qu'un SMS, puisqu'un SMS, c'est 160 signes, et ça donne une forme de communication vraiment très particulière, dont d'ailleurs les malentendus et l'équivoque ne sont pas absents. Ça, c'est particulièrement intéressant pour ceux qui s'intéressent justement au langage et à la communication, c'est vraiment un lieu de tous les possibles, même si on est limité par 140 caractères. Le principe, c'est que vous ouvrez un compte avec votre mot de passe, votre identifiant, et que vous êtes libre de suivre des personnes, c'est-à-dire de prendre des abonnements, au fond, par rapport à certaines personnes que vous rencontrez sur Twitter. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait de suivre les personnes? Ça veut dire que tout ce qu'ils vont écrire, vous allez pouvoir le lire. Et les personnes qui seront abonnées à votre nom pourront lire, elles, tout ce que vous écrivez. Et donc, c'est au fond une chaîne sans fin et un dialogue sans fin qui est vraiment expérimenté par une petite communauté. Et c'est vraiment une expérience en cours et dont chacun, au fond, tire certaines conclusions. On commence à en parler, en tout cas. Et la question est de savoir si ça servira ou non notre communauté. Il y a quand même des choses qui deviennent très intéressantes, me semble-t-il. Certaines conférences sont loin, tout le monde ne peut pas s'y rendre. Certaines conférences sont plus fermées. Par exemple, il y a eu notamment dernièrement une conférence sur la question de la passe à l'ECF où étaient conviés certains analystes, mais ce n'était pas tout le monde. Eh bien, des analystes ont commencé à tweeter des extraits de la conférence au fur et à mesure. Et donc, on a des petites perles sur Twitter de choses qui se sont dites et qui se succèdent. Et non seulement vous avez ces petites perles, mais en plus, vous avez la façon dont chacun l'a entendu, puisque certains retransmettent la même chose en même temps, ce qui n'est pas inintéressant. Et donc, il y a par exemple le premier cours de Jacques-Alain Miller qui est sur Twitter actuellement. Il y a aussi cette conférence sur la PASS qui a été. Les journées du RI3 à Bordeaux ont été retransmises, notamment par ce mode-là. Et c'est vraiment... moi, je vous encourage à découvrir cet univers, ne fût-ce que parce que cliniquement, je trouve ça important aussi de savoir ce qui se passe et comment les gens peuvent utiliser ça. Alors, je vous ai mis quelques noms, puisque pour commencer à suivre quelqu'un, il faut connaître quelqu'un qui y est, j'ai envie de dire. Midit, c'est quelqu'un qui s'appelle Cécile Favreau dans la vie réelle et qui est assez extraordinaire parce qu'elle a créé un blog qui s'appelle le Midit's Blog sur lequel elle rassemble tous les tweets de ses conférences, justement. Et donc, vous pouvez y avoir accès. Force, c'est Jean-Pierre Klotz qui est un autre analyste de la région de Rennes, me semble, ou Bordeaux, de Bordeaux. Ça pourrait être vous. Anne Cosin a écrit comme ça, c'est moi. Et il y a aussi dans la salle Christophe Dubois qui peut faire un petit coucou, et, enfin, ou qui peut ne pas le faire, c'est comme il veut, et qui est notamment dans le groupe Paragraphe de lecture qui a lieu juste avant. Voilà, si vous avez envie de découvrir. Et puis, si vous avez envie de faire l'expérience de tweeter de pas à pas pour le mettre en partage pour la communauté analytique, surtout, n'hésitez pas, allez-y. Alors, je regarde le temps qu'il y a. Je peux prendre encore 5 minutes ? Oui ?
Pas plus. Hein.
Pas plus ? J'y vais vite. Bon, eh bien, le résumé, vous l'avez là-bas. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Par contre, je vous avais parlé, ou j'avais en tout cas tenté de vous parler la dernière fois du graphe du désir. Il se fait que j'ai parcouru le séminaire 10 sur l'angoisse parce que je commençais à m'intéresser à l'objet voix, et je suis tombée sur quelque chose qui m'a donné envie de vous donner cette petite introduction et de reprendre les choses autrement. Donc, au début de son séminaire 10, l'angoisse, Lacan se pose la question de ce qu'est ici, c'est-à-dire au lieu où il enseigne dans son séminaire, un enseignement. Il s'agit d'enseigner non seulement à ce qui ne sait pas, mais à ce qui ne peut savoir. Il se réfère ainsi au sujet de l'inconscient. Et que faut-il enseigner, se demande-t-il ? Non une interprétation, comme ce qui peut être le cas pour un analyste lors d'un contrôle, mais il lui faut adopter une position communicante plus large et s'engager sur le terrain du faire comprendre. Donc, faire appel à quelque chose dans son auditoire, faire appel en son auditoire à une expérience qui va bien au-delà de la stricte expérience analytique. De se faire comprendre, Lacan dira tout de suite qu'il est préférable d'avertir quiconque qu'il n'a pas trop à en croire ce qu'il comprend. Il s'agit de ne pas comprendre trop vite, comme dans la clinique, y compris dans l'enseignement, donc. Il ne s'agit ni de compréhension psychologisante, ni de quelque chose qui se réfère à l'expérience clinique directe lorsqu'on enseigne. Comprendre dans un enseignement de la psychanalyse se détourne en tout cas de deux voies. Lacan, au fond, identifie trois voies possibles pour l'enseignement. Il se détourne des deux premières. La première voie, c'est celle du catalogue, du classement et des catégories. Et la deuxième voie, c'est la méthode de l'analogue, c'est-à-dire la méthode qui permet au fond de faire des échelles et de créer différents niveaux lorsqu'on approche une problématique. C'est notamment une méthode qui sert en anthropologie. Lacan, lui, choisit une troisième voie qu'il définit sous l'indice de la fonction de clé. Clé qui ouvre et permet ou ne permet pas à la fonction signifiante d'opérer comme telle. Cette fonction de clé devrait se retrouver pour Lacan dans tout enseignement, pas seulement en psychanalyse, et se référer à ce qu'il nomme un idéal de simplicité. Et comment Lacan justifie-t-il cette recherche de la simplicité, cette réduction, comme il dit, réduction que l'on retrouve d'ailleurs en science pour aborder un réel qui est toujours complexe, ou en tout cas qui nous apparaît comme toujours complexe. Eh bien, c'est parce qu'il nomme la notion d'initium subjectif, initium, donc moment initial, le moment où apparaît un sujet comme tel, à partir de l'introduction première d'un signifiant, signifiant le plus simple, celui qu'il appelle le trait unaire. Et Lacan postule que tout ce qui est enseignable doit conserver le stigmate de cet initium ultra simple. C'est la seule chose, dit-il, qui puisse justifier à nos yeux l'idéal de simplicité. Eh bien, le simplex, la singularité du trait sont des signifiants dans lesquels moi j'ai trouvé une façon de progresser dans la présentation du graphe du désir, que je trouve encore très complexe, et vous l'avez vu lors de mon dernier essai de présentation. Aussi, je vais m'emparer de ce trait simple, c'est très simple, n'est-ce pas, de cette singularité du trait pour vous proposer à partir de la prochaine conférence un seul trait, une seule flèche du graphe à la fois. Alors maintenant, je vais passer la parole à Véronique Mariage, qui va nous parler, sous le titre de Castration, phallus et analyste, de la séance 18 du séminaire du transfert. Je vous remercie. Oui, je précise juste que vous êtes analyste dans la région de Tournai et travaillant au Courtil également comme directrice thérapeutique. Je vous donne la parole.
Voilà, merci. Bienvenue, bonjour à tous. Voilà, je suppose que tout le monde a lu cette séance 18. Je vois que tout de suite, c'est un peu difficile. Effectivement, je trouve que moi, je me suis cassé la tête pour essayer de comprendre cette séance et essayer de, après tout, de situer quelle est la question de Lacan dans ce moment du séminaire. Alors, bien sûr, je crois que c'est une question qui se prépare, qui se répète déjà depuis quelques séances. C'est la question... c'est la question de la fonction du phallus comme signifiant dans le transfert. Tout est important. Alors, ça m'intéresse beaucoup, ces questions-là, parce qu'elles sont éminemment pratiques pour l'analyste. C'est-à-dire que Lacan la cherche, après tout, comment on manie la question phallique dans le transfert entre l'analysant et l'analyste. Que fait l'analyste avec ça? Et donc moi, ça c'est une question que je trouve extrêmement difficile, c'est une question qu'on peut se poser à chaque fois qu'on reçoit quelqu'un. Bon, on ne se la pose pas comme ça, mais bon, quand même. Et donc, cette question insiste déjà dans les... En tout cas, moi j'ai relu les deux chapitres précédents. Elle est déjà là. Et en plus, elle est cruciale. C'est vraiment extrêmement important de situer ce qu'on fait de la question phallique dans la pratique pour qu'il y ait une psychanalyse. Alors, vous pouvez lire à la page 279-280, qui n'est pas le chapitre 18, qui est dans le chapitre... deux chapitres avant, je crois, vous pouvez lire ceci. Qu'est-ce qu'on entend? Voici le chemin que je tente de forer vers ce que doit être le désir de l'analyste. Sous-entendu dans son rapport au phallus et au manque, à la castration. Voilà ce que dit Lacan. Pour que l'analyste puisse avoir ce dont l'autre manque, il faut qu'il soit sous le mode de l'avoir. Qu'il ne soit pas lui aussi sans l'avoir. Il n'est pas lui aussi sans avoir un inconscient, l'analyste. Alors, que fait-il avec son propre inconscient. Alors, Lacan poursuit. Pourtant, si l'analyste se met du côté de l'avoir, alors il est condamné à la fausse surprise. Pourtant, il n'est efficace qu'à s'offrir à la vraie surprise. C'est-à-dire, c'est quoi la vraie surprise? Et c'est ce qui va tenter de démontrer, essayer d'avancer en tout cas, parce que je trouve que on n'arrive jamais au bout des questions avec Lacan. On peut essayer d'avancer sur cette question très précise. Donc, il n'est efficace qu'à s'offrir à la vraie surprise, l'analyste, dans sa présence, c'est-à-dire être le signe et représenter quelque chose pour quelqu'un. C'est le propre du signe, et justement, c'est ce qui est à rompre. Donc, en même temps, l'analyste est signe, mais en même temps, il doit rompre d'être le signe. Enfin, c'est... En même temps, il est le signe pour l'analysant, en même temps, il doit rompre d'être le signe. Car le signe qui est adonné est le signe du manque de signifiant. Or, s'il est le signe d'insignifiant pour le sujet, eh bien, il n'est pas dans une bonne position. Pas dans une bonne position, parce que là, il est représenté et il est, si vous voulez, l'analysant va chercher son propre inconscient de l'analyste. Et donc, du coup, il faut laisser tout l'enjeu et de pouvoir laisser cette place vide. C'est-à-dire qu'il ne soit pas le signe. Le signe donc qui est à donner est le signe du manque de signifiant. C'est le seul signe qui n'est d'ailleurs pas supporté, dit-il, car c'est le signe qui provoque la plus indicible angoisse. Donc c'est le plus insupportable dans la cure, quand l'analysant rencontre cela du côté de l'analyste. C'est pourtant le seul, dit Lacan, qui puisse faire accéder l'autre, c'est-à-dire l'analysant, à ce qui est de la nature de l'inconscient. Ah, vous voyez, c'est... Je trouve cette phrase formidable. Je trouve ce petit passage, vraiment, ça fait vraiment la différence entre ce qui est psychothérapeutique et ce qui est du champ de la psychanalyse. Ça. C'est-à-dire la vraie, la fausse, voilà. Et donc, toute la question, donc je la répète, comment donc l'analyste a-t-il donc à se situer par rapport à ce signifiant phallique? Donc la question est essentielle et elle est illustrée par les formes et les impasses qu'une certaine thérapeutique orientée dans ce sens nous démontre. C'est-à-dire que dans ce chapitre, donc Lacan va tenter de démontrer, à partir, il dit que on peut repérer cette question, on peut un peu mieux la situer, qu'à partir des impasses de la clinique. Et c'est pour ça qu'il va passer du temps, je vais reprendre le cas avec vous, le cas de Bouvet, qui est le cas d'une névrose obsessionnelle féminine, de comment, parce que c'est un très beau texte, sur la place du phallus et du transfert, dans la cure d'une femme obsessionnelle. On met toujours l'obsession du côté masculin, très souvent, alors que bien sûr il y a des femmes obsessionnelles. Et donc on va reprendre ce cas plus loin. Alors, autre chose qui m'a interrogée dans ce chapitre, c'est que Jacqueline Miller a mis comme titre la présence réelle. Alors, je me suis vraiment cassé la tête. Hein. Mais pourquoi? Parce que la présence réelle, eh bien, si vous cherchez ce que c'est dans ce chapitre, eh bien, elle fouille comme un poisson que vous essayez d'attraper. Et vous dites, ah, c'est ça. Ben, dans le temps d'après, vous vous rendez compte, ben non, c'est pas ça. Eh bien, je pense que c'est ça, le grand fi. Je pense que c'est justement cet élément de présence réelle, c'est-à-dire que qu'on tente d'attraper, mais qu'on ne peut jamais attraper. C'est la présence réelle de ça. C'est pour ça qu'on dit réel. Elle a à voir avec le réel. Sauf que dans cette période-là de l'enseignement de Lacan, la question du réel, elle est toujours... Alors on peut se dire, mais non, la présence réelle, ben oui, mais non. Quand je parle de ça avec des collègues, ben, c'est évident, c'est la présence de l'analyste dont il parle. Ben oui, d'accord, mais on n'a rien dit quand on a dit ça. Bon, donc voilà, moi je le... Dans l'après-coup du travail, après avoir beaucoup pensé, etc., je me suis dit, après tout, prenons-le comme ça. Alors vous allez voir qu'il en parle de toutes sortes de façons. Hein, on aura peut-être l'occasion donc d'y revenir. Alors, donc pour interroger la fonction symbolique du phallus et sa fonction, etc., dans le transfert et dans son rapport à l'analyste, Lacan repart de deux formules qu'il avait données dans son chapitre précédent. Alors, je crois que Guy Poblom ne les a pas n'a pas commenté. Il a dit un tout petit mot de l'hystérie, mais je ne vais pas, moi, faire un développement de la formule qui représente l'hystérie. Je vais me centrer plutôt sur celle dont il dit être la formule du fantasme de l'obsessionnel. Vous savez que la particularité de l'obsessionnel, ça aussi, il m'a fallu un bout de temps pour le tracer dans le chapitre. J'ai au moins eu la chance qu'il n'y avait qu'un seul chapitre. Parce que... Bon. Hein, je pense que c'était une bonne intention de faire ça. Bon. Et donc, cette formule, qui est une formule, il faut savoir, que je demandais à Philippe tout à l'heure si elle apparaissait. Je crois qu'elle est dans d'autres séminaires. Et puis, j'ai cherché rapidement, je n'ai pas trouvé. Il me semble qu'elle est dans d'autres séminaires. Cette formule du fantasme de l'obsessionnel. Alors, toute la question, c'est pourquoi l'obsessionnel a-t-il des fantasmes phalliques ? Ben oui. On est vraiment en plein dedans, quoi. On est vraiment... bon. Et cette formule, eh bien, c'est la formule qui dit ce que c'est que le fantasme de l'obsessionnel. Et la formule, je l'ai mis tout de suite au tableau, parce qu'elle va nous aider... Alors, c'est A barré, déjà ça, hein. Je me suis dit, mais pourquoi il a mis, parce qu'on mettrait bien plutôt S barré, mais non, il met A barré. Eh bien, il y a une raison. J'ai ma petite version là-dessus. C'est toujours qu'une hypothèse, hein. Alors, il met d'abord A barré, et puis il met le fameux poinçon, et l'articulation à quelque chose. Au phallus, grand phi, il ne met pas moins phi, petit phi, plus phi, il met grand phi, phallus symbolique, hein, grand phi, et une série d'objets en rapport, donc, qui se démultiplient, donc grand phi qui se démultiplie, je dirais ça comme ça, en une série d'objets. Et pour l'obsessionnel, vous pouvez mettre beaucoup de points. Voilà. Alors, donc je vais essayer de faire vivre cette formule. Parce que les formules, qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. En plus, c'est pas une formule qu'on utilise, qu'on a l'habitude d'utiliser. C'est pas les plus. Hein, c'est des formules. Ce sont des formules de recherche dans l'enseignement de Lacan. Hein, un peu à la fois, il tente d'essayer d'attraper quelque chose, et puis, avec ses petites lettres, il tente d'avancer et d'éclaircir des choses. Permis. Alors, donc, ces grands filles. Et Lacan, tout de suite, donc, fait remarquer que dans cette formule, c'est grand phi qui est en jeu. Alors, c'est ça qu'il faut saisir. Pourquoi Barré et pourquoi ses grands-filles? Et je pense que à la fin du chapitre, on en a une petite idée. Alors, je vais faire le parcours que Lacan fait dans le chapitre. D'abord, dit-il, donc on ne doit pas confondre le phallusin, le grand-fille et le petit-fille. Donc, c'est deux façons d'écrire le phallus. Grand-fille et petit-fille. Alors, il dit tout de suite, il dit oui, c'est facile. Hein, quand on dit bah, la différence, c'est simple. Hein, c'est le phallus symbolique. Et celui-ci, c'est le phallus imaginaire. Et Lacan dit, c'est trop vite dit. C'est trop vite dit. Il dit ça à la page, je n'ai pas noté. S'arrêter sur une telle définition, eh bien, ça serait vraiment méconnaître ces différentes symbolisations. Donc, symbolisation, c'est-à-dire une formule, ça symbolise quelque chose. Ce n'est pas le symbolique. Hein, faut faire la différence. Alors, déjà, donc, en général, quand on appréhende, et vous allez voir dans le cas de Bouvet, le cas René, ce qui est en jeu, c'est le phallus imaginaire tout le temps. C'est-à-dire, hein, c'est le phallus imaginaire, vous verrez. Alors, le phallus... Il commence à chercher, il y a une série de références, et il y a par exemple la référence de Favet. Lui, quand il parle de l'analyse, de sa fonction pour l'analyser, l'analyse prend la place pour le patient, prend la place du fétiche. Alors on voit le fétiche est d'ailleurs proche d'une présence réelle du phallus. Hein? Lacan dit ça, c'est une vue des plus subjectives. qui le renvoie au problème de l'analyste qui dit ça. Pour Bouvet, et donc là on reviendra plus en détail après, eh bien, c'est la prise de conscience par le sujet féminin de l'envie du pénis. Alors, quand le sujet féminin prend conscience que, après tout, tout son problème, le sujet féminin obsessionnel, hein, en tout cas, mais aussi le sujet féminin névrosé en général, que c'est l'envie du pénis, que ceci est le ressort principal actif efficace dans la prise de possession par le sujet au sens du symptôme, eh bien, ça serait donc, pour Bouvet, en somme, ça serait ce qui fait thérapeutique, donc je vais l'expliquer, hein, ce qui fera thérapeutique dans la dimension phallique pour Bouvet dans son cas René, eh bien, c'est l'introjection imaginaire du phallus en tant qu'incarné dans le fantasme imaginaire du phallus de l'analyste. Alors, c'est très intéressant, bon... Vous comprenez sûrement pas, là. Je le sais. C'est très intéressant de voir comment... Ce qui est important, c'est que... toute la recherche de Bouvet, elle est vraiment centrée sur la relation de l'analysant à l'analyste. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et le progrès de la cure... C'est le progrès de cette relation, l'avancée de cette relation de l'analysant et de l'analysé, et de comment le phallus est manié. Alors vous allez voir, il y a des passages très drôles. Alors, en tout cas, pour Lacan, il y a lieu de mieux préciser comment resserrer donc la question du transfert chez cet auteur, afin d'arriver donc à une articulation précise de ce qu'est la fonction du phallus dans le transfert. Et Lacan dit, rien de mieux pour cela que de revenir à l'expérience singulière. Donc en même temps, chez Lacan, vous avez un mouvement comme ça. Vous avez en même temps hein, ces fameux mathèmes, etc., hein, qui viennent généraliser quelque chose de la clinique, mais en même temps, il dit bien qu'à chaque fois, c'est singulier. La façon dont on l'aborde. Extrêmement important dans l'actualité de la psychothérapie. Parce que dans les formes, c'est le contraire des formes TCC, thérapie comportementale, où il y a lieu de tous se ranger de la même façon avec son symptôme. Non. Donc là, lui, il dit, c'est vraiment... Il faut pouvoir recentrer les choses dans l'expérience singulière. Donc, et c'est l'intérêt, dit-il, du travail de Bouvet, qui a su construire sa théorie de la fonction de l'image phallique dans le transfert, donc à partir d'une expérience tout à fait localisée. Celui de l'expérience des obsessionnels, en plus une femme. Alors, commençons. Déjà, on va essayer de... Je vais y revenir plusieurs fois. Pourquoi abarrer ? Lacan dit que abarrer, dans cette formule, c'est la façon dont l'obsessionnel se situe par rapport à l'autre. C'est-à-dire que quand l'obsessionnel se désigne, il ne semble jamais être à la place où il veut se désigner. C'est pour cela que donc il n'arrive jamais à se situer dans l'autre. Et donc l'autre est barré. Je trouve ça très intéressant parce qu'on pouvait mettre sujet barré. Mais ce n'est pas la même chose. Le sujet barré étant le résultat d'une opération de représentation. Tandis qu'ici, c'est... Il n'arrive pas à trouver dans l'autre ce qu'il va le représenter. Quelque chose lui échappe. Et c'est pour ça qu'il met un barré. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu lire ça attentivement. Ils peuvent me contredire. Ça serait d'ailleurs très vivant. Moi, j'aime pas les conférences, hein, je le dis tout de suite. Je préférerais qu'après tout, on puisse m'interrompre. Et donc, voilà. Donc ça, c'est la première partie de cette formule. Et puis, la seconde partie, donc, c'est grand phi a prime à seconde, à tierce, et des petits points. Donc ce second terme, en tout cas de la formule, fait allusion à la série des objets que sont pour l'obsessionnel... les objets de son désir. Mis en fonction, dit Lacan, d'une certaine équivalence érotique. Chez l'obsessionnel, l'érotisation est partout. Elle est dans sa pensée, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de... Il y a une érotisation de la pensée, hein, mais il y a aussi une érotisation... de ces objets d'amour, enfin je veux dire une multiplication, une érotisation phallique. En somme, on pourrait d'ailleurs, Lacan l'a pas fait, mais on pourrait très bien, en dessous des petits a prime seconde a, on pourrait mettre phi à chaque fois. Parce que chaque fois, c'est pris dans la dimension érotisée phallique. Ces objets... comme ça, à l'infini, où il n'arrive pas à trouver le bon objet pour son désir, et du coup, les choses sont rendues impossibles. C'est dire les choses simplement, hein, mais bon. Alors, en tout cas, ils sont toujours au pluriel. Et alors, Lacan fait remarquer que, par exemple, dans le cas de Freud, l'homme au rat, on voit très bien comment les rats, d'abord il dit Lacan, on dit les rats. Donc, est-ce que vous connaissez tous ce bout de... Je vais reprendre, je vais le lire. Prenons le temps, hein, ben, si ça dure une heure en plus. On n'est pas d'accord. Alors, dans les cinq psychanalyses, hein, l'homme au rat. Hein, donc la grande, je vais vous lire, donc la grande obsession des rats, du supplice des rats, de l'homme au rat. Donc l'homme au rat raconte. Donc il est lors d'une halte, il était assis entre deux officiers, dont là un capitaine qui avait un nom de chèque devait acquérir pour moi de l'importance, dit l'homme au rat. Je le craignais jusqu'à un certain point, car il aimait évidemment la cruauté. Or, pendant une halte, nous eûmes une conversation au cours de laquelle le capitaine en question raconta qu'il avait lu la description d'un supplice particulièrement épouvantable pratiqué en Orient. À ce moment, le malade s'interrompt, se lève et me demande de le dispenser de la description des détails. Imaginez l'analysant qui se lève et puis qui ne peut plus... c'est vraiment terrible pour lui. Alors, Freud essaie d'avancer une série d'hypothèses pour qu'il puisse arriver à en parler. Alors, il y a quelque chose de très intéressant aussi, hein, dans ce chapitre de Lacan, c'est que Lacan dit qu'il n'y a pas d'avancée possible sans une participation active de l'analyste dans la prise en compte par le sujet de cette dimension érotique phallique pour l'obsessionnel. Moi, j'ai découvert plein de choses, hein. J'ai appris plein de choses en lisant ça. Hein, Alors, donc, Freud dit vous voulez parler d'empalement. Non, non, ce n'est pas cela. On attache le condamné, on renverse sur ses fesses un pot dans lequel on introduit des rats, donc, il s'était levé manifestement tous les signes de l'horreur et de la résistance. Et donc il s'était de nouveau levé, enfin il était vraiment très mal. Hein? Donc on introduit des rats qui s'enfoncent dans l'anus d'uche complétée, dit Freud. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que Freud a dû compléter ce qu'il ne pouvait absolument pas dire. À ce moment-là, à chaque moment important du récit, dit Freud, on remarque sur son visage une expression complexe et bizarre. Expression que je ne pourrais traduire autrement que comme étant l'horreur d'une jouissance par lui-même ignorée. Ça, c'est très connu, hein? Il continue avec beaucoup de difficultés, et à ce moment, mon esprit fut traversé par l'idée que cela arrivait à une personne qui m'était chère. Et donc, toute l'angoisse de l'amour, c'est que, bien sûr, il pense à ce supplice pour les personnes qui lui sont chères, notamment une femme, etc. Bon, donc voilà la grande obsession de l'homme au rat. Alors, on voit tout de suite la part érotique du rat. Alors, Lacan fait remarquer, et d'ailleurs vous voyez bien ce qui justifie, c'est les objets, la métonymie des objets érotisés de l'obsessionnel. Et il dit, pourquoi est-ce qu'on dit les rats? Il n'y en a toujours qu'un, quand même, qui peut à la fois faire ce supplice. Donc, c'est un seul rat. Eh bien non, dit Lacan, c'est des rats que Freud dit. Et que, bon, c'est en même temps l'homme au rat au pluriel. Alors voilà, donc le rat, eh bien, il symbolise, il tient la place du fille, en tant qu'il est une réduction, dit Lacan, du grand-fille. Donc, il tient la place de petite-fille. Hein, donc, Laura, vous pouvez le mettre ici. Hein. Ça fait les rats. Hein. À la place des rats peut venir les fleurs. Après ça, il dira dans le travail de Freud, à la place des rats viennent les florins, l'argent, forcément, et toutes les, tous les objets, et les femmes, etc. Donc, on voit la métonymie de... Et tout ça, c'est... Alors, la grande question de Lacan, c'est ça, dans la névrose obsessionnelle, il est déclassé, le grand-fi symbolique. Il est toujours déclassé en petit-fi. Hein, et donc, vous pouvez mettre fi, fi. Hein, voilà. Vous comprenez déjà beaucoup mieux la formule. Cette partie-là, en tout cas, parce que tout le problème, c'est ça. De Lacan. Ça, c'est le... Sa grande question, c'est qui fait que ça doit être ça et pas, pas fi. Parce que si c'est fi, on est du côté de la psychothérapie. On n'est pas du côté de la psychanalyse. Enfin, moi, je mets de la fausse psychanalyse, comme il dit. Pour être de la vraie, il faut faire fonctionner grand fi de la bonne façon. C'est-à-dire, je vais vous le dire, c'est très simple, j'y reviendrai. C'est-à-dire laisser cette place vide. C'est simple. Donc, c'est pas répondre, c'est pas... Et on va voir que dans le cas de Bouvet, comment l'analyste se met à cette place-ci. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des progrès thérapeutiques indéniables chez la patiente. Voilà. Voilà, c'est se dégager de l'axe imaginaire. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, comme dit Lacan. Hein ? Et donc, il faut pouvoir l'étayer avec... la singularité de chaque cas, parce que ça se présentifie d'une manière... Puis je vous raconterai le rêve d'un de mes patients de ce matin qui m'a fait penser à la formule. Allez voir. Ouais. Bon, alors on va peut-être passer au cas de Bouvet. Hein, voilà. Et donc c'est un cas qui est publié... Je disais à Anne qu'éventuellement je pourrais. C'est un cas qu'on ne trouve pas facilement. Donc, c'est un cas qui est publié dans la Revue française de psychanalyse de 1950. Et donc, on retrouve ça, bien sûr, dans les bibliothèques. En tout cas, je pense que cette version-ci vient de la bibliothèque de l'ECF. J'avais la chance d'avoir ça dans ma bibliothèque. J'ai ouvert ma farde et je suis tombée pouf dessus. Je me suis dit, c'est très bien. On pourra raconter le cas parce que Lacan ne le raconte pas. Hein? Et donc, prenons un peu de temps pour ça. En plus, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant. Alors, c'est un cas très, très bien construit. Hein, c'est quand même un cas qui se présente sur combien de pages ? De 215 à 200, enfin ça n'a pas d'importance, 243, une trentaine de pages. Mais il est très bien construit. Il est construit d'abord quelques observations, d'abord une petite introduction sur la thèse. La thèse que Bouvet veut démontrer. Ensuite, une observation, et puis l'observation de la problématique et de la maladie. Puis la situation familiale de la patiente. Et puis la cure. La cure qu'il développe en deux phases. Alors, tout de suite, je vais vous dire... Les phases, elles sont déterminées par la position du sujet dans le transfert, dans le rapport à l'analyste. C'est-à-dire que la cure commence, et ça, c'est pas piquer des vers, la cure commence par un transfert négatif massif. Et donc, quand on commence les cures avec des transferts négatifs massifs, il faut savoir, ça va manier ça. Bouvet, ils se sont bien, bien débrouillés. Bon, c'est... Et donc, la seconde phase de la cure, c'est quand ça bascule. Il y a une bascule des rapports du sujet au transfert. Et donc forcément, Bouvet, il a une thèse. Il a une thèse dans le rapport à la prise de conscience de la patiente sur justement son rapport au phallus. Et donc il dit, c'est ça qui fait le progrès. Sauf que quand vous allez voir, quand Bouvet va vouloir le faire accepter par la patiente, elle va lui dire pas du tout. Elle va le nier, elle va le dénier, elle va... Mais en attendant, elle ira mieux. Et donc, lui, il se... Bon. Donc, sa grande thèse, donc, je lis, hein, c'est la prise de conscience de l'envie du pénis qui intervient de façon favorable sur l'évolution des phénomènes de transfert et facilite l'assouplissement du surmoi féminin infantile. Alors, voilà, donc cette observation, en tout cas ici, tente à démontrer que comme l'obsédé masculin, la femme a besoin de s'identifier sur un mode régressif à l'homme pour pouvoir se libérer des angoisses de la petite enfance, mais aussi transformer son rapport à sa mère, rapport violent à sa mère. Et vous allez voir comment ça se termine, cette cure. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Bon, on le verra après. Voilà, ça passe, dit-il, par une identification à l'analyste. Alors, venons au cas. René est une femme de 50 ans environ. Bien portante, mère de deux enfants, exerçant une profession paramédicale, qui a subi dans un proche passé une analyse déjà de 2 ans, sur laquelle ils n'ont pas de renseignements quand ils reçoivent René. Nous savons, sauf que quand même, ils savent qu'elle a eu pour son médecin un sentiment assez vif, qu'elle n'extériorisera pas facilement et qu'elle interrompit sa cure sur des prétextes variés. C'est toute une série d'idées qu'il fallait qu'elle interrompe. Elle était encouragée dans cette attitude par une amélioration très importante des phénomènes obsessionnels. Si ça me nuisait, dès qu'elle entrait en traitement, donc à chaque fois qu'elle rentrait en traitement, hop, les symptômes obsessionnels s'atténuaient, et à chaque fois qu'elle arrêtait l'analyse, hop, ça réapparaissait. Alors, quand il la rencontre, elle était dans un état d'angoisse extrême. Et ils n'ont pas de place pour la recevoir. Parce que je crois que ils sont plusieurs. Alors, Bouvet, je ne sais pas comment ils travaillaient. Ça, je n'ai pas été chercher. Je ne sais pas comment ils travaillaient, mais en tout cas, ils décident de recevoir cette dame. Je ne sais pas s'ils sont à l'hôpital ou dans un centre. Ou bon. En tout cas, ils décident de la recevoir 2 fois par semaine. Alors que l'habitude, à l'époque, c'était tous les jours. Donc, ils la reçoivent que 2 fois par semaine. Donc, elle souffrait d'obsessions à thème religieux. Donc, elle était sous l'emprise de phrases injurieuses ou scatologiques s'imposant à elle en contradiction formelle avec ses convictions. Dès qu'elle désirait prier, ou même spontanément, elle se représentait en outre, imaginativement, des organes génitaux masculins sans qu'il s'agisse de phénomènes hallucinatoires à la place de l'hostie. Donc, quand elle allait à la place de l'hostie, qu'est-ce qu'elle s'imaginait recevoir? Des organes génitaux masculins. Cet état s'était aggravé lorsqu'elle avait essayé de diminuer volontairement ses possibilités de maternité. Mais avait commencé dès son mariage. Donc, c'est des obsessions qui arrivent dès son mariage. Par contre, on pouvait considérer que quand même, elle était déjà malade depuis l'âge de 7 ans. Donc, c'est apparu dans l'enfance. Donc, voici la liste des principales obsessions. Crainte obsédante d'avoir contracté la syphilis. Obsession infanticide, entremêlée à ses obsessions religieuses, ses propres enfants, c'est pas ses propres enfants qui en étaient l'objet. Obsession d'empoisonnement de sa famille par des rognures d'ongles tombant dans la nourriture, ou par simple contact des doigts avec les aliments, ou encore par contact des doigts avec le pain, même protégé par un linge. Alors, je sais pas, nous... On entend ça dans une présentation de malade où on se dit qu'on a affaire plutôt à la psychose. Bon, mais pourtant, bon, voilà, on va pas faire cette discussion-là. Alors, à la puberté, elle a l'obsession d'étrangler son père. L'obsession aussi de semer des épingles dans le lit des parents pour piquer sa mère. Très cool. Et à l'âge de 7 ans, apparaît des phobies touchant la sécurité de ses parents. Phobie soulagée par un simple moyen de défense logique, c'est-à-dire vérifier leur retour à la maison, par exemple. Donc les phobies, c'est pas des phobies... Bon. Alors, elle allait contre ses pensées par des rituels, forcément, des procédés de défense, vérification, précaution... toucher trois fois le truc pour que ça n'arrive pas à un autre, pour annuler certaines idées. Ou se répéter trois fois non, je ne l'ai pas pensé. Voilà, donc ça c'est... Bouvet interprète... Lui dit, cette femme souffrant d'un complexe de castration féminine annule ses pensées agressives de castration par la réaffirmation sur un mode symbolique de son désir de possession phallique, triple répétition de la formule conjuratoire. Comment Bouvet interprète. Alors, sa situation familiale, il y a un Oedipe à première vue qui paraît normal. René faisait l'éloge du père. Et afficher la haine la plus tenace à l'égard de sa mère. Puis l'ambivalence à l'égard des deux parents se fit jour, et enfin l'Oedipe apparut complètement inversé. Cette femme s'était entièrement identifiée à son père, et l'ensemble de sa vie émotionnelle était uniquement polarisée par sa mère. Elle accabla en effet son père de critiques sévères visant sa situation. Il était brigadier de gendarmerie, et la fillette rougissait de cet état qui l'humiliait auprès de ses compagnes. Le caractère du père, c'était un père chagrin, taciturne, taiseux, déprimé. Il n'avait pu triompher de l'attachement de sa femme à un premier amour platonique, il était jaloux, etc. C'est le père. Ce qu'elle reproche au père. Alors, derrière ces reproches, dit Bouvet, se dissimulait une agressivité infiniment plus importante par rapport. La malade produisit des rêves indiscutables de castration de son père. Tel celui-ci, par exemple. Je rentre dans la chambre mortuaire de mon oncle, frère du père. C'est écœurant. Je vois ses organes génitaux en pleine décomposition. « Mon père, dira-t-elle, m'a tenu aucune place dans ma vie, etc. » Sa mère. Elle a un intérêt passionné pour elle. Mais elle lui en voulait surtout de ne pas l'avoir assez aimée et de lui avoir préféré constamment sa sœur cadette, 7 ans moins âgée qu'elle. Et donc, Bouvet ne relève pas ça. C'est quand même le début de la maladie, la naissance de la sœur. elle avait la certitude de cette préférence affichée par la mère pour sa cadette. Voilà, il y a une grosse violence, une violence extrême entre la mère et la fille, donc la patiente et sa mère, et en même temps un attachement extrême. Toute personne s'immisçant dans cette union était l'objet de souhaits de mort. Alors elle dit, parce que ça c'est aussi, c'est la mode actuelle d'ailleurs, il y a sûrement un traumatisme sexuel dans l'affaire, dans la petite enfance, et elle en trouva un traumatisme qu'elle dit avoir subi vers l'âge de 3 ans. Un homme l'apportant sur son bras lui aurait touché les parties génitales, ce qui lui aurait occasionné un vif sentiment de frayeur. Voilà, donc on trouve ça, et après il va bouffer, il va hésiter avec ça, il va dire bon, on verra après. Alors, elle éprouve tout au long de sa vie des amitiés passionnées pour des filles. Avec qui elle a des jeux sexuels, se mettre des bâtonnets dans la vulve, ou se faire administrer des lavements par des fillettes plus âgées. C'est quand même gratiné, hein. À l'époque, hein, dans les années 50, les choses cachées. Hein. Alors... Alors, elle était tombée aussi, elle avait une grande passion pour une infirmière américaine qui cantonnait près de chez elle. C'était une femme qui, elle, était une bonne mère, la comprenait, l'aimait, la traitait en égale, etc. Plus tard, l'infirmière partie, elle renoua des relations de ce genre avec des amis plus âgés. Il faut savoir qu'elle-même était infirmière, René, hein, est devenue infirmière. Alors, son mariage, eh bien, elle s'est mariée. Alors, son mari était professeur, mais surtout officier de réserve, ce qui l'a flatté et annulé le sentiment d'infériorité personnelle qu'elle avait par rapport au père, qui était, lui, sous-officier de réserve de gendarmerie. Alors, Bouvet dit ceci, il était doux, très bon, très dévoué, et elle sentait confusément qu'il ne la dominerait jamais. Elle réussit d'ailleurs à le castrer complètement, sur tous les modes, par ses angoisses, ses exigences doucereuses, tout en ayant dans son comportement journalier une absence apparente de volonté et d'initiative qui ressemblait fort à sa passivité envers sa mère. Au fond, elle eut avec lui l'attitude ambivalente typique qu'elle ne cessa de déployer à l'égard de sa mère. Alors, ses enfants, le second lui échappe très lentement grâce à l'analyse de sa mère. C'est intéressant quand même que Bouvet dise des choses comme ça. La mère est en analyse et du coup, au moins un des enfants a pu échapper à la mère à cause de l'analyse. Et tandis que l'aîné avait un caractère très marqué et très opposant. Jusqu'à d'ailleurs, elle avait une peur panique de cet enfant. Elle n'osait même pas rester seule avec lui. Voilà. Alors, l'analyse, elle dure 14 mois. Donc... Ça commence comme ça, c'est très drôle. On va pas pouvoir tout lire, mais je vais vous lire quelques passages sur le transfert négatif. Cette femme entendait manifestement imposer à l'analyste les conditions dans lesquelles elle acceptait d'être traitée. Notre attitude fut tout à la fois extrêmement ferme et empreinte d'une sympathie bienveillante. Alors, c'est intéressant de comment ils s'y sont pris, hein. Quelques séances de traitement suffisaient à la libérer de ses obsessions religieuses, en même temps qu'elle affichait à l'égard de son médecin une opposition si nettement formulée qu'elle ne pouvait elle-même qu'en être frappée. Elle gardait un silence à peu près total, qu'elle n'interrompait que pour dire, donc elle ne parlait pas. Je ne veux rien vous dire, c'est trop humiliant, dégradant, ridicule. Je connais assez bien les médecins pour savoir qu'entre eux, ils se moquent de leurs malades. Il n'y a aucun motif pour que vous échappiez à la règle. D'ailleurs, vous êtes plus instruit que moi. Vous allez vous moquer de ma naïveté. C'est impossible pour une femme de parler aux hommes. Voilà comment elle, le transfert négatif s'exprime. Alors, cette rébellion, il y a des pages sur cette rébellion. Je ne vais pas tout lire. Alors, donc, elle est vraiment dans ce premier temps d'analyse. Donc, elle refuse de payer, ça coûte trop cher. Mais elle est toujours là. Elle est toujours, elle revient toujours à ses séances pour se taire et pour vraiment montrer sa haine de l'homme. Et quand ça s'exprime, les obsessions tombent. Alors, ce qui est intéressant, c'est les points de bascule. Alors, donc, il va avoir un point de bascule dans l'opposition, dans son rapport au transfert. Ceci, c'est ce point de bascule, il le situe à partir d'un rêve qui vient vers le cinquième mois du traitement. Voici le rêve. Je suis dans le service hospitalier où je travaille. Ma mère vient dans le service. Elle dit du mal de moi à la surveillante. Je suis furieuse et je sors. Je rentre dans la boutique d'un savetier qui se trouve en face de l'hôpital et j'achète une paire de chaussures. Puis tout d'un coup, ouvrant la fenêtre, je me mets à injurier violemment ma mère et le chef de service. Alors, dans les associations du rêve, ça qui est intéressant, enfin, bon, du point de vue du phallus, la question du phallus. Les chaussures choisies étaient très pointues. Donc ça, c'est les associations. Puis elle vient à parler du cordonnier, qui était un homme jeune, brun, et qui n'était pas sans présenter quelques analogies avec nous. Donc il ressemblait à l'analyste. Le cordonnier tend donc l'analyste. Chez qui elle trouve chaussures à son pied. C'est moi qui raconte. C'est pas écrit. Voilà, donc Bouvet dit qu'elle tente de s'affranchir de la crainte de sa mère, dont l'éducation trop sévère était pour beaucoup dans sa maladie. Donc il y a le symbole des chaussures, manifestement symbolisé par les chaussures, donc le phallus qu'il avait amené à penser à celle de son père. Donc ce rêve exprimait un désir de possession phallique, le pied, le phallus puissant. Voilà comment c'est interprété. Hein ? Ce sont des interprétations assez classiques sur le versant, effectivement, du phallus imaginaire. Elle nous ramène, elle nous rapporte ensuite deux fantaisies oniriques qui la surprenaient beaucoup. Alors, voilà de quoi elle rêve éveillée. Je me vois avec l'un de mes seins transformé en verge. C'est extraordinaire. La nuit dernière, je me suis encore vue, mais cette fois avec une verge entre les deux seins. Elle raconte. Alors bien sûr, là, Bouvet, c'est vous voyez son désir d'identification masculine avec possession phallique. Là, c'est net. Et donc ça apparaît donc dans cette deuxième, après cette période de transfert négatif, elle entre en somme dans un travail d'analyse, même si toute la cure est marquée par un grand silence. Bouvet dira jusqu'au bout qu'elle était quand même en grande difficulté de parler. Sauf que ce sont les rêves, hein, et alors ils ne sont pas... Hein, voilà, ceux, en tout cas dans la quantité des rêves qu'elle a amenés, ceux qui sont choisis ici, par exemple, c'est « J'ai rêvé que j'écrasais la tête du Christ à coups de pied. Et cette tête ressemblait à la vôtre. » Et en association, elle dit l'obsession suivante « Je passe chaque matin pour me rendre à mon travail devant un magasin de pompes funèbres où sont exposés quatre Christ. En les regardant, j'ai la sensation de marcher sur leurs verges. J'éprouve une sorte de plaisir aigu et de l'angoisse. » Quand même, c'est quand même... C'est quand même... C'est pas n'importe quoi. Hein. On comprend que ça a intéressé Lacan, son chapitre sur le phallus. Ainsi donc, dit Bouvet, le désir d'avoir un pénis fourni par l'analyste était-il accompagné d'un fantasme de destruction de l'organe du médecin ? Vous voyez comment c'est pris dans... C'est le phallus de l'analyste qui est opérant dans le phallus. Lacan dira présence réelle du phallus. En somme, la présence réelle, dans le chapitre, il en parle... à propos de la présence réelle du Christ dans l'hostie. Et donc, du coup, puisque c'est la présence réelle de l'homme, il y a la présence réelle des organes génitaux, il y a la présence réelle aussi, il y a aussi la présence réelle qui est une présence qui existe et qui n'existe pas. C'est aussi une présence réelle, ça. Ce qui existe ou ne pas exister. Enfin, ça, c'est une version à moi. De la présence réelle du phallus. J'ai parlé de ça il y a longtemps dans Booktube. Bon. Voilà. On a encore un peu de temps. Quelle heure il est là ? Ah. Ça va. Alors, bien sûr, donc ils vont lui dire, ils vont lui... Mais ça, je n'ai pas... Dans le cas de Bouvet, on n'a pas ce qu'il lui dit à la patiente, malheureusement. Sauf qu'il lui dit sûrement quelque chose sur cette possession phallique. Il interprète sûrement. En tout cas, il dit, donc dans la deuxième phase de l'analyse, elle n'admit pas d'emblée ce désir de possession phallique. Pourtant clairement exprimée. Et si elle acceptait maintenant notre analyse de ses rapports avec Dieu, son mari et nous-mêmes, elle n'en maintenait pas moins son opinion sur le caractère artificiel et proprement arbitraire de nos interprétations de ses rêves. Je n'ai jamais désiré être un homme. Donc voilà ce qu'ils interprétaient. Vous voulez être un homme. Bon, on peut deviner l'interprétation. Quoi qu'il en soit, à partir de ce moment, son comportement à l'analyse changea. Son transfert évoluait. Et c'est ça, son attitude récriminatrice. Elle ne répétait plus qu'elle donnait de l'argent injustement. Voilà. Et ses préventions à l'égard de l'analyste comme homme étaient tombées. Et il y a tout un moment où elle, effectivement, elle reproche à l'analyste d'être un homme. En même temps, c'est celui-là qu'elle veut. Mais il dit donc que ça continuait quand même, sa réticence à parler. Mais elle peut dire, elle peut chercher maintenant pourquoi. Pourquoi elle ne veut pas parler ? Elle disait, je ne peux pas, je ne sais pas ce qui m'empêche de parler. Il était certain qu'elle était soumise à un débat intérieur intense. Elle sortait de ses séances fatiguée. Alors, il y a toute une partie d'obsession. Donc voilà, le transfert avait ainsi pour, ainsi que l'on pouvait s'en rendre compte, à de tout petits signes, perdu beaucoup de son agressivité. L'analyste était d'abord un adversaire, la mesure de la castration. Quand le désir de possession pénètre devient conscient, l'homme devenait un allié. Et donc, elle. Alors, la cure va se terminer. Donc, c'est 14 mois la cure. Elle va se terminer par une forme de réconciliation avec la mère. Alors, elle va faire donc des rêves de réconciliation avec la mère. Il y en a plusieurs, c'est assez déployé dans le. Mais. Voilà. Je vais quand même en lire un. Donc, un fantasme de réconciliation avec la mère phallique. Il succède à tous ceux au cours desquels René recevait la puissance phallique des mains de l'analyste. Alors voici un rêve. Je me retrouve avec mes camarades, certaines d'entre elles vont passer un examen. Et comme je n'ai pas mon brevet, l'une d'elles me dit méchamment, vous devriez concourir. Je refuse puisque je l'ai obtenu par équivalence. Notre directrice me soutient. À ce moment, elle relève brusquement ses jupes et je trouve qu'elle exagère. Elle a les jambes et les cuisses entièrement noires. Plus tard, je suis dans un jardin, une de mes collègues que j'aime beaucoup me tend une branche de pommier en fleurs. Alors ce rêve va être va être déplié pas à pas. Donc les cuisses noires, les branches de pommier en fleurs, les longues tiges. Voilà, donc du côté phallique. Alors attendez, je recherche, c'est pas celui-là que je voulais lire. Celui qui dit. Ou sa mère, comme ça, le. Comment cette cure se termine vraiment par une. Voilà. La cure pour Bouvet se termine par elle renonce à la possession du pénis. Et du coup, la mère est déphallicisée. La mère devient mère. Et donc, il y avait des passages drôles, je ne les retrouve pas. En somme, elle finit par rêver que sa mère est une lavandière. C'est-à-dire, c'est. Une dame qui s'occupe bien de son ménage, etc. Et elle va parler de sa mère comme étant en disant « Et je n'avais jamais vu ça. Je ne l'avais jamais remarqué. » Et donc, c'est comme ça que la cure se termine. Donc, une réconciliation avec quelque chose quand même d'atténué, phalliquement, et quand même relativement apaisé. Alors, il dira quand même que cette cure n'est pas finie, car il reste quand même une question pour elle sur la féminité. Qu'est-ce qu'une femme ? Et ça, je trouve vraiment, dans l'époque, vraiment intéressant. Voilà, je ne vais pas à peu près à la fin de. En dire plus de ça. Alors, je voudrais donc poursuivre. Donc, tout ça, j'ai dit. Je ne suis pas beaucoup mes notes, hein, mais bon. Voilà. Je me serais mieux d'ailleurs débrouillé si j'avais... Alors, je voulais donc revenir justement sur ce que Lacan donc tente de cerner sur ce grand-fi. Donc, c'est la dernière partie dans ce chapitre. Alors, comment je vais m'y prendre, parce que je ne m'y retrouve plus. Donc vous vous souvenez de la question de départ, hein, la question de Lacan qui termine le chapitre, je pense que c'est le chapitre 16. Oui, voilà. Hein, donc je vais la reprendre, cette question. Donc ce qu'il dit de... de justement l'analyste, si l'analyste se met du côté donc de l'avoir, alors il est condamné à la fausse surprise. Il n'est efficace qu'à s'offrir à la vraie. Alors il dit ceci, être le signe et représenter quelque chose pour quelqu'un, c'est le propre du signe. Et justement, c'est ce qu'il y a à rompre. Donc, grand phi, le signe qui est à donner est le signe du manque de signifiant. C'est le seul signe, dit Lacan, qui n'est pas supporté, car c'est le signe qui provoque la plus indicible angoisse. C'est pourtant le seul qui puisse faire accéder l'autre à ce qui est de la nature de l'inconscient. On voit bien que dans le cas de Bouvet, ce qui s'est bouché, cette place, s'est bouché par le phallus imaginaire, par la prise en compte de et de se dire et sur une certaine conception du transfert. C'est-à-dire la conception du transfert qui est la projection, c'est très clénien, c'est l'époque, la projection hein, le phallus qu'elle veut être, hein, le phallus qu'elle veut être ou avoir, elle va le chercher chez l'analyste. Et elle le, et d'ailleurs tous ses rêves, tous ses fantasmes, c'est comme ça qu'elle avance dans la cure. Et l'analyse joue le jeu à cette place. Eh bien, pour que l'analyse fonctionne, pour ne pas se coincer sur cet élément-là et s'interrompre, bien sûr, sur un apaisement, il faut que l'analyse laisse cette place vide. Alors, je vais vous raconter donc un rêve que j'ai entendu ce matin dans un de mes analysants obsessionnels. C'est toujours, quand on travaille comme ça, ça vient... les cures que vous entendez, que vous menez, sont parfois tout spécialement... viennent comme ça vous faire saisir. Là. Alors, est-ce que j'ai mis ça ? Je vais vous lire, j'ai écrit le rêve. Voilà. Alors, c'est un patient obsessionnel qui est venu, enfin, qui est en cure depuis longtemps et qui a beaucoup avancé. C'est quelqu'un qui est arrivé très affecté par le fait qu'il ne pouvait pas aborder les femmes. Et avec une grande honte de devoir dire s'il abordait une femme et avoir un rapport sexuel avec elle, eh bien, il avait honte de devoir dire, il se sentait obligé de devoir dire à la femme qui serait avec lui qu'il n'avait jamais couché avec une femme. Et ça, c'était la pire des choses. Et donc, ça le bloquait complètement dans son rapport aux femmes. Alors, ça, c'est quelque chose qui s'est levé au bout de 2 ans d'analyse, tout d'un coup, à partir d'un rêve où le père lui pointe qu'il est en train de... il est en somme en train de pénétrer une femme. Son père est là et il... j'ai travaillé ce... Là, j'ai beaucoup présenté ça ailleurs. Pas chez nous. Et donc, le père... donc, la femme est voilée et il ne sait pas qui il baise. Et le père, lui, soulève le voile. Et c'est sa mère. Horreur, c'est sa mère. Voilà le rêve. Et à partir du moment où il a pu rêver ça, eh bien, il a pu aborder... son inhibition à aborder les femmes s'est levée. C'est surprenant. Bon, c'est comme ça. Surprenant. Bon. C'était donc un grand progrès de sa cure, et donc maintenant il vit avec une femme avec qui il sait que c'est pas facile, pour lequel il se pose tout le temps la question de rester avec elle ou pas, qu'il n'est pas à la hauteur, etc. Il y en a eu beaucoup avant que ça soit celle-là avec qui il vit maintenant. Il en a rencontré quelques-unes avant de pouvoir un peu quand même s'arrêter avec elle, mais il ne sait pas s'il va rester avec elle, etc. Et donc, ici, donc, il rêve ceci. Donc, il est dans une pièce. Il dit, ça doit être ma chambre. Une pièce plongée dans la pénombre. Quelqu'un est présent, une femme. Ça doit être ma copine, dit-il. Une vieille plaque de métal ferme un trou noir dans la pièce, qui est une entrée d'une cave. Et tout à coup, une araignée sort de ce trou. Et il la tue. Puis une deuxième sort, une autre encore, et à chaque fois, il les tue. Je ne comprends pas, dit-il. Moi, je ne tue jamais les araignées. Moi, les araignées, je les sauve, je les attrape et je les jette dehors. Donc voilà la première chose qu'il dit de ce rêve. Donc il dit qu'il ne comprend pas, et il dit qu'il ne sait pas ce que c'est que ces araignées. Celle-ci qui sortait du trou était particulièrement la sorte d'araignée qu'il n'aime pas. Il dit, c'est les plus hideuses. Alors il cherche, il dit, les araignées c'est quoi? Ah ben oui, on dit les araignées, avoir une araignée dans la tête. Alors vous voyez la métonymie qui se met en route, la métonymie des objets hideux, hein, avoir une araignée dans la tête, avoir trop de pensées. Hein, oui, peut-être après tout, c'est mon père que j'écrase, dit-il. Alors, donc il les reporte à ses pensées, à son trop de pensées, et il dit, pourtant, je suis quand même maintenant fortement apaisé par mes pensées, mais moins pris par le penser sans cesse. Alors il cherche, c'est quoi ces choses hideuses? Alors c'est plus, les araignées deviennent des choses hideuses. Ah, vous n'allez quand même pas me dire que ça a à voir encore avec quelque chose de sexuel, qu'il me dit. Bonjour. Vous pourriez quand même m'aider, alors il s'adresse à moi. Vous pourriez quand même m'aider, vous savez sûrement ce que représentent ces araignées. Oui, vous, avec votre silence. Alors il vient comme ça. Et puis il dit, en quoi ça pourrait avoir avec ma copine? Oui, mais elle dort et elle me tourne le dos, qui dit. Il dit, oui, cette chose, ces araignées, c'est quand même la boîte noire. Et je termine la séance. Donc, Si on reprend, donc on voit bien que l'araignée, elle a à voir vraiment, elle sort du trou, il avait bien entendu, mais il ne pouvait pas dire, elle sort du trou, il avait bien vu que c'était quand même le sexe de la femme, ce trou qui était là, béant, et avec la dimension, l'araignée a une dimension phallique. Une dimension phallique qui tente d'arrêter, d'écraser, de. Hein, il dit c'est le père, etc. Mais si vous répondez ça, vous lui dites, vous commencez à interpréter comme ça, eh bien, vous tombez. Il faut absolument laisser cette place vide. Et il faut qu'il reparte avec sa question pour pouvoir continuer l'analyse. C'est ça le phallus symbolique. C'est cette place où peut se précipiter dans ce trou la question de la jouissance, la libido. C'est le signe de la présence réelle de phallus. C'est le signe de la présence réelle d'où peut surgir tout ce qui est phallique. Mais c'est un trou. C'est entre deux signes. Alors Lacan dit, pour terminer son chapitre, il dit, c'est l'entre-deux signifiant. Pour essayer d'attraper ça, il dit, c'est l'entre-deux signifiant. C'est le signifiant de... Alors, on va lire la conclusion du chapitre, parce qu'elle est très, très bien dite. Je ne pourrais pas le... Voilà ce que dit Lacan. Il dit... Le phallus comme signe du désir se manifeste comme objet du désir, comme objet d'attrait pour le désir. C'est dans ce ressort que gît sa fonction signifiante. Et c'est ainsi qu'il est capable d'opérer à ce niveau, cette zone, ce secteur, où nous devons à la fois l'identifier comme signifiant et comprendre ce qu'il est ainsi amené à désigner. Ce qu'il désigne n'est rien qui soit signifiable directement. Tout est dans cette phrase. C'est ce qui est au-delà de toute signification possible et nommément la présence réelle sur laquelle j'ai voulu aujourd'hui attirer votre pensée. Présence réelle du phallus. Bon, il va encore avancer hein, sur la question du phallus symbolique. D'accord. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu attraper un peu quelque chose. Essayer de vouloir faire saisir combien l'enseignement de Lacan est une trouvaille lui-même, son enseignement est à voir avec cette place vide, qu'on appelle après aussi S de grand tabaret, c'est-à-dire qu'il y a un trou dans l'autre et il y a toujours à élaborer, peut-être Philippe. Et le moteur de la cure, c'est ça. Et si c'est pas. L'analyste vient boucher les choses par l'interprétation, par certaines interprétations, pas toutes, donc il faut une interprétation qui laisse cette place ouverte. Hein, et donc si on vient la boucher, eh bien, on arrête les cures. Il faut toujours se poser la question quand quelqu'un. S'en va alors qu'il est en plein travail. Parfois on ne le sait pas, hein, mais c'est toujours très important de se poser la question.